Si la technologie reste un mystère pour toi, si tu ne sais pas qu'un smartphone sert aussi à téléphoner, on ne peut plus rien pour toi. Enfin presque, seules trois lettres peuvent te sauver. ATG.
L'Agence Tout Geek, le podcast des champions. Pour de l'information, réponds à vos questions. L'Agence Tout Geek, un va-t'en beau caston. Prêt pour la transmission, et la mission. L'Agence Tout Geek, Tout Geek, c'est super pratique. L'Agence Tout Geek, poigné sur le numérique. L'Agence Tout Geek, t'as geek, nostalgique. L'Agence Tout Geek, c'est le show de Geek. L'Agence Tout Geek, c'est Yaraspoutnik. Va remplir vos épreuves à l'air maximum.
Et bonsoir les geeks.
Bonsoir
les amis, ATG numéro 75, nous sommes le 9 février, hein, Lord ton père, et on enchaîne les épisodes. Bonsoir Lord ton père.
Tu vas bien? Bonsoir
je,
tout le monde.
Je vais bien. Bonsoir. Ça va pas trop déborder dans le boulot Lord ton père?
À moitié mort.
Car demain tu pars en vacances.
Il y a une prise de courant, est-ce qu'il y a un générateur pour tous mes ordinateurs?
Sûrement. J'espère qu'il y a le net là où tu vas.
Ah bah sinon je repars.
Tu repars direct. Herbie, bonsoir Herbie.
Bonsoir.
Tout va bien?
Ouais.
Ta rubrique SF est prête?
À peu près.
Très bien. Et nous accueillons donc un nouveau membre de l'agence, un nouvel agent, c'est Clémence. Bonsoir Clem.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Clémence. Faut que je dise Clémence, c'est bien Clémence.
Non mais Clem, ça va aussi. Comme
donc Clémence, tu vas venir nous parler régulièrement de choses qui te tiennent à cœur. Par exemple, la science, c'est un sujet qui t'intéresse car tu as un podcast qui s'appelle Ramène ta science, je me permets de le rappeler. On en a parlé dans le dernier épisode, dans long, en large et en travers. Et donc, ça fait du bien d'en reparler quand même ce soir. Tu as aussi une activité originale, puisque tu t'occupes d'une escape room qui s'appelle Epsilon Escape.
Tout à fait, Epsilon Escape.
D'où ton goût pour le jeu?
Eh oui, oh, j'aimais bien le jeu avant, mais c'est vrai que là, je baigne dedans au quotidien.
Et donc, tu vas nous parler régulièrement de jeux de plateau ou de jeux qui t'intéressent.
De tout type de jeux, jeux vidéo, jeux de plateau, jeux de rôle, voilà. Tout
bon, très bien, on aura le livre et le jeu.
C'est cool.
C'est cool, hein. Et nous, on...
Et nous, on écoute, on les laisse bosser.
Et nous, on glande. Voilà, c'est ça. tu as tout compris à l'idée. Et puis, ce soir, on a un invité exceptionnel, comme d'habitude, d'ailleurs.
Au moins.
On a François Barranger. Bonsoir François.
Bonsoir David.
Et à côté de lui, on a l'invité de la prochaine émission, puisque je vous rappelle que maintenant on enregistre
deux dans la même soirée.
On a Jérôme. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir à tous.
Et tout à l'heure, Jérôme, nous parlerons Flex Fuel avec toi.
Exactement.
Et nouvelles technologies et plein de choses.
Exactement.
Et voitures.
Exactement, la technologie autour de l'automobile.
Tout à fait. Mais en attendant, pour cet épisode 75, on va parler de François Barranger, de nombreuses activités créatrices. Qui vont, ils regardent ça, et qui vont de l'illustration à l'écriture de romans, en passant par le design, en passant par plein de choses.
À peu près.
Tu vas nous parler de tout ça. Lors de ton père, des nouvelles, des news, des choses qui se passent?
Non.
Les vacances s'approchent.
Si j'arrive à survivre jusqu'à demain.
Et Herbie, tu as fait une nouvelle chronique ou tu es en train de la taper peut-être?
Non. Je suis un peu à la bourre, j'avais fait un petit concours et comme ça, ça masquait le fait que j'avais porte-chronique de prête à poster. Mais normalement, la semaine prochaine, j'essaye de reprendre les parutions hebdomadaires à peu près.
Ça serait bien.
Et surtout aussi maintenant que les émissions sont diffusées à un rythme soutenu, il faut aussi que je fasse toutes les petites pages récapitulatives des sélections des émissions précédentes.
Mais oui, et puis ouais, c'est ça, parce que les gens me réclament. Mais je ne sais plus si notre ami qui aussi faisait la liste sur un site précis continue à le faire.
Je sais plus, mais ça fait un moment que je suis pas passé non plus. Alors
faudra que j'aille voir.
Ça a pas été mis à jour depuis un moment.
Ouais, faudra que j'aille voir. Bon, et puis Clémence, ton actualité en dehors du boulot journalier?
Eh bien, je prépare le prochain épisode de Ramène ta science, le troisième, qui portera sur les exoplanètes. Alors, on vient d'enchaîner trois interviews en trois jours. C'était très dense et super intéressant.
Plus un podcast ce soir.
Plus un podcast
ce soir. Deux podcasts même. Donc, très bien. Bah, tu vois, tu vas pouvoir profiter de ton week-end. Enfin, j'espère pour toi. Eh bien, moi, j'ai juste l'actualité des New Max qui continue. Enfin, j'en ai parlé la dernière fois. Donc, pour Black & Chrome, c'est plié, mais je reviendrai pas dessus. Il y a toujours plus de place. Pour celle d'après, par contre, pour Pirate, donc, il reste des places encore pour
la
nuit Pirate.
Est-ce que tu peux nous rappeler les films?
Alors, pour la nuit Pirate, on aura le droit à... On va commencer par les Goonies. on va de Richard Donner, on va continuer par Hook de Steven Spielberg et on finira par Pirates des Caraïbes de comment il s'appelle déjà Gore Verbinski, voilà, je cherchais son nom. Voilà, donc une soirée très pirate. Bon, ça, les ventes ont bien démarré, hein, donc je pense qu'on a dépassé la moitié de la capacité de la salle, donc il y aura du monde, mais profitez-en, il reste encore des places. J'espère qu'il en restera au moment où je publierai ce podcast. Voilà, bon, on va pas s'étendre, on va démarrer, on va trancher dans le vif direct et on va faire la mission dès maintenant. C'est parti pour la mission, si je retrouve le jingle. Alors les petits gars, vous êtes prêts?
Oui, chef.
On va tout péter.
On va commencer par torturer François Baranger.
Non.
Ça devrait être drôle.
Souffrance.
J'adore cette musique. François Baranger.
Et moi?
Je te connais depuis un bon moment maintenant. Ça fait pas loin d'une dizaine d'années, à mon avis, qu'on s'est contacté.
C'est possible, ouais.
Et on a commencé à travailler ensemble fin des années 2000.
Sur des couvertures.
Sur des couvertures pour les éditions Brajlon, sur des livres de fantasy. Et je trouvais que tu étais un illustrateur de talent, que tu faisais des belles couvertures. Et donc, au bout d'un moment, je l'ai déjà raconté cette anecdote, je ne sais plus si c'est dans Dreamon, un autre podcast avec Stéphane Marsan. Au bout d'un moment, François m'a éconduit. Il m'a dit,
c'est
écoute
fini.
David,
ça traquenard.
David, je ne peux plus travailler pour toi, ce n'est plus possible. Car les sirènes d'Hollywood t'avaient appelé
au moins.
De l'autre côté de la Manche, puisque je crois que tu es parti c'est en Angleterre que tu es parti.
Je suis parti, oui, temporairement en Angleterre pour travailler. Pour les studios d'effets spéciaux qui sont concentrés à Londres. On a beaucoup là-bas.
Et donc, tu as travaillé sur un film dont tu as fait pas mal de design, qui est Prince of Persia, l'adaptation de Prince of Persia.
Oui, j'y suis allé pour plusieurs films. Oui, quand on travaille dans ces studios-là, on travaille rarement sur une prod en entier, puisqu'on est en post-prod, on n'est pas en préparation. Donc, le tournage est déjà fait, et les gros studios de production font appel à une dizaine, voire parfois des dizaines de sociétés d'effets spéciaux différentes pour paralléliser le travail et donc aller beaucoup plus vite. Et donc on travaille à chaque fois sur une petite section du film. Donc je travaille pas longtemps sur un film, mais ça me permet par contre au contraire de changer de registre et d'univers assez régulièrement. Quoi.
Bon, mais revenons à l'origine, tes premiers amours, c'est quand même le dessin et l'illustration. C'est ta formation de base.
Ma formation, c'est illustrateur.
C'est ça.
Je suis un dessinateur... né, si j'ose dire, c'est-à-dire, je fais partie de ces gens qui ont toujours dessiné aussi loin que je puisse remonter. Et donc après le bac, naturellement, j'ai fait une école d'art. Et on peut dire que ma formation la plus représentative, celle qui correspond le mieux à la plupart des métiers que j'ai fait après, c'est illustrateur. Et qui s'exprime de différentes manières suivant les activités que j'ai eues.
Alors moi, quand je t'ai connu, tu travaillais déjà énormément en numérique.
Ah oui, complètement. Ouais.
Et d'ailleurs, je sais pas si t'es un précurseur, mais t'es un des premiers que j'ai connu à l'époque. À l'époque, il y avait encore beaucoup d'illustrateurs qui travaillaient de manière traditionnelle. Pour deux raisons, d'ailleurs. Un Didier Graffet ou un Manchu me disaient qu'ils préféraient travailler de manière tradie, puisque souvent, ils revendaient leurs toiles.
Oui, ça, c'est un gros avantage.
Oui, ça fait partie des choses qu'on peut faire. Mais non, toi, t'étais déjà largement passé au numérique, et ce qui te permettait aussi d'avoir une rapidité peut-être d'exécution, une facilité à répondre à la demande.
Oui, c'est-à-dire que moi, au-delà de l'illustration pour les couvertures de romans, j'ai toujours eu très envie de travailler dans la prod, c'est-à-dire que ce soit dans le jeu vidéo ou dans le cinéma, de faire du concept, de faire des illustrations préparatoires, etc. Et ça, c'est pratiquement impensable aujourd'hui de le faire en traditionnel. Les délais, le rythme d'une production fait que c'est pas possible.
Ouais. Et donc, alors, est-ce que tu peux nous citer quelques films sur lesquels tu as travaillé quand tu étais dans ces boîtes d'effets spéciaux ?
Alors, quand j'étais à Londres, j'étais chez une société qui s'appelle MPC, qui est une sorte de ILM local, à l'époque plus petit qu'ILM, maintenant je ne suis même pas sûr qu'il soit encore plus petit. Et là-bas, j'y suis allé principalement pour Harry Potter, donc pour le 7.
Et tu avais moins de cheveux. Tu étais beaucoup plus rasé.
Oui, je me rasais la tête à l'époque. C'était plus pratique, disons. Donc j'y suis allé pour Harry Potter. J'ai eu l'occasion de travailler pour Prince of Persia, pour G.I. Joe, de sinistre mémoire.
on fait pas toujours ce qu'on veut.
pour la colère des Titans.
Ah oui, c'était
Clash
sympa,
of the Titan
ça.
2. Ouais, très sympa. Ouais. Bah, c'est souvent des films qui sont
pour Percy Jackson, je vois aussi.
Percy Jackson, c'était plus tard ça. C'est souvent des films qui sont pas très satisfaisants en termes cinématographiques, mais qui sont très marrants pour travailler dessus.
Bon, c'est pas très satisfaisant. Moi, je trouve que ça fait le taf. Moi, les deux Titans qu'ils ont fait,
ouais, Titan,
c'est plutôt sympa,
ouais.
Quoi.
Ouais, G.I. Joe, moi, déjà.
Ouais, G.I. Joe, c'est pas ma cam, on va dire. Quoique, c'est dans le deuxième G.I. Joe, je crois, qu'il y a une mallette.
Mais regarde pas, je l'ai pas vu.
Moi, je l'ai vu.
Moi, je me suis contenté du premier.
Il y a une mallette. À la fin, il y a une mallette de détonateur nucléaire. Parce qu'il y a tous les chefs d'État qui se retrouvent autour d'une table et ils ont leur mallette pour déclencher le feu nucléaire. Et il y a le Français qui a sa mallette. Et pour armer la mallette, enfin la bombe,
une baguette.
Il y a un bouton ou une clé et il y a marqué bras en dessous.
Ah, pas
parce qu'ils ont traduit arme directement par bras en français, puisque c'est la mallette du français, évidemment. Donc c'était assez drôle. Il y a quelques trucs comme ça qui m'ont bien fait rire. Donc G.I. Joe, je vous recommande le deuxième volume, un chef-d'œuvre. T'as bossé aussi sur Arthur et les Minimoy.
Oui, au tout début.
En fait, c'était en France, ça.
Ouais, en fait, dans une autre vie, j'avais commencé à faire, à réaliser des courts-métrages d'animation en 3D.
Ah oui, carrément.
Il y a très très longtemps, ouais, fin des années 90, et certains qui avaient été sélectionnés à Imagina, par exemple.
Mm-hmm.
Et du coup, Luc Besson m'avait contacté parce qu'il commençait la prépa de Arthur et les Minimoy et qu'il voulait lancer un deuxième dessin animé en parallèle,
mm-hmm.
une deuxième ligne de prod. Et donc, il m'a appelé pour réaliser un film d'animation. Qui s'appelait Hector, qui était un film entièrement avec des robots. Un peu comme Blue Sky l'a fait quelques années après avec le film qui s'appelle Robot.
Robot, ouais.
Et la prod a fini par être annulée. Du coup, moi, j'ai basculé cette fois-ci en tant que concept artiste sur Arthur et les Minimoy.
Est-ce qui était une chouette expérience, ça, qui t'a donné envie de continuer dans cette voie?
Ah, de toute façon, moi, ça a toujours été un objectif. C'est à partir du moment où j'ai fait mon école d'art et que j'ai commencé à découvrir les grands noms américains du design ou du matte painting, comme Ralph McCarry, par exemple, pour citer le plus connu, ou Ron Cobb, ou Sid Mead, ou des gens comme ça. C'était mon objectif.
Les grands.
C'était faire ça, voilà.
Ouais.
Et donc, c'est vrai que j'ai commencé vraiment à le faire sérieusement à partir d'Arthur et les Minimoy, on peut dire ça. Ouais.
Génial. Je vois aussi, alors que tu as été graphiste pour un certain nombre de jeux vidéo au début des années 2000, et qu'après tu es devenu concept artiste. Alors c'est quoi la différence entre un graphiste et un concept artiste dans le jeu vidéo?
Ah oui, alors là tu remontes encore plus loin.
Concept artiste, il y a des trucs récents. Hein,
oui, mais pour le graphiste.
Ah oui, pour le graphiste, oui, ça
remonte. Non, à l'époque où je faisais où j'étais beaucoup dans la 3D, parce que ça m'amusait beaucoup. Moi je suis un passionné d'ordi depuis toujours, même si je suis illustrateur à la base traditionnelle, peinture, pinceau, etc. J'ai toujours été un dingue d'ordinateur et du coup j'ai fait beaucoup de 3D, j'adorais ça et c'est ça qui m'a fait faire notamment des courts-métrages d'animation et un bon moyen à l'époque pour gagner sa vie, c'était d'être modeleur 3D dans le jeu vidéo,
ah bah oui.
Il y avait beaucoup de boulot là-dedans.
Bien sûr.
Et sur les films sur lesquels tu travaillais, tu étais artiste 2D ou 3D?
Ah non, que concept artiste. Très rapidement, je me suis concentré sur le fait d'être concept artiste, justement à partir du moment où les outils numériques m'ont permis d'être vraiment productif là-dedans. C'est-à-dire que moi, je peux faire des concept art ou des illustrations traditionnelles, mais je suis trop lent. C'est-à-dire le temps qu'il me faudrait pour faire une image, c'est, mettons, 3 semaines, par exemple. C'est impensable en prod. Alors qu'un concept art en numérique, il me faut, même un concept art très difficile à faire, il me faudra une semaine grand max, sauf exception. Mais en général, entre 3 et 5 jours, quoi. Donc ça rend les choses possibles. Alors qu'en traditionnel, aujourd'hui, plus personne serait prêt à attendre aussi longtemps pour avoir un concept art. C'est impensable.
Ouais. En termes de concept artiste justement pour le jeu vidéo, t'as quand même bossé sur des gros machins, enfin hein, sur des énormes prods comme Heavy Rain ou Dishonored 2. Enfin c'est pas la même chose.
Alors en fait j'ai travaillé vraiment comme concept artiste surtout sur les prods de Quantic Dream, donc Heavy Rain et Beyond Two Souls, où là j'ai passé plus d'un an à chaque fois sur place et à faire entre 100 et 200 concepts, j'ai pas compté, mais c'est vraiment énorme. Très très gros travail.
Alors ça doit être assez passionnant.
Ah c'est génial. De toute façon, toutes les prépas sont passionnantes, hein, que ce soit pour le cinéma ou pour le jeu vidéo. Pour peu que le sujet soit intéressant, que l'équipe derrière soit motivée, passionnée, avec des gens intéressants, c'est un boulot de rêve, quoi. C'est un boulot que j'adore.
Alors, est-ce que sur ton site, justement, on peut retrouver ces visuels? Tu as publié
beaucoup
de choses?
Alors, les plus anciens, ouais, mais moi, j'ai le drame de faire un travail dans lequel on est ce qu'on appelle sous NDA, c'est-à-dire sous accord de confidentialité, et donc je peux jamais rien montrer.
C'est dommage. Même les trucs finis, quoi.
Alors, si, les trucs finis, on peut, mais il y a souvent 3-4 ans de décalage. C'est-à-dire que moi, quand je travaille, je suis très très en amont. Après, il faut que la prod se fasse, la post-prod se fasse, que le film sorte, et puis là, on peut commencer à poster le truc, et encore pas toujours. Des fois, même comme ça, on n'a pas le droit. Et donc, souvent, il se passe 2, 3 ou 4 ans, donc mon site, il n'est pas du tout à jour. et parfois même, les prods sont annulés, ce qui arrive, et du coup, là, on ne peut jamais le montrer.
Ouais.
Donc moi, j'ai des concept art que je n'ai jamais pu montrer à personne, à part entre quatre yeux, mais que je n'ai pas pu poster, qui sont dans aucun artbook, etc. Ça, c'est le côté frustrant du boulot, ça.
J'imagine. Allez voir hein, le site de François sur... C'est quoi? C'est françois.baranger
françois-baranger.com, mais si on veut vraiment voir des choses récentes, c'est plutôt sur ma page Facebook, tout simplement.
Ah bah oui.
C'est plus facile à tenir à jour, en fait.
Tout à fait.
Un peu une feignasse du site internet.
Clems, tu connaissais François, son travail? Ça, tu en avais entendu parler?
Alors, bah, je m'étais renseignée un petit peu, mais non, je ne connaissais pas avant.
C'est mal.
Mais je découvre maintenant.
C'est bien, tu rattrapes.
Exactement.
Alors, on va parler littérature, parce que c'est quand même pour ça qu'on t'a fait venir, parce qu'il y a une actualité littéraire qui est L'effet domino, qui est un livre qui sort chez Bragelonne en thriller ce mois-ci. Donc, il sera disponible là. Le 15 février. Donc, ça arrive vraiment très, très vite. Le jour où on postera ce podcast, il sera disponible. Donc, précipitez-vous pour l'acheter. C'est un grand format. C'est un thriller. On va un tout petit peu parler de ta reconversion, entre guillemets, parce que c'est pas une reconversion, c'est une corde de plus à ton arc. Puisque tu as commencé par de la science-fiction, un double volume qui s'appelle Dominium Mundi, qui est sorti chez Critique en 2013 et en 2014. Voilà. Alors je sais qu'Herbi, qui est notre spécialiste de SF, c'est pas sa cam. Autant le dire franchement.
Non, hein. C'est mal.
Et par contre, Lord ton père, qui aime aussi beaucoup la SF, lui, c'est beaucoup sa cam.
Ah, complètement.
C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu envie de te faire venir, parce que je sais que ça faisait énormément plaisir à LTP. Donc, il m'en a parlé, il m'a dit, tu devrais lire ça, Dominium Mundi, c'est super chouette. Alors évidemment, j'ai vu les coups, j'ai dit, ah oui, François Baranger, ça me dit quelque chose. donc tu es un rêve pour ton éditeur, parce que tu fais les couvertures et le bouquin, quoi.
Quoique, au début, j'avais suggéré que ce soit pas moi qui la fasse. C'est comme les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Je m'étais dit, est-ce que c'est moi le plus adéquat pour synthétiser tout l'intérêt, tout l'univers d'un livre dans une couverture, alors que c'est moi qui l'ai écrit? Je me disais, si ça se trouve, je vais taper à côté. Je vais pas savoir quoi prendre comme sujet, alors que pour n'importe qui d'autre, je finis toujours par trouver. Là, j'étais pas sûr d'y arriver.
Ouais,
il a insisté.
Pour Dominium Mundi, c'était de la SF, donc c'était quand même un domaine dans lequel t'étais très à l'aise.
Bah, pas tant que ça en fait. Hein. Moi, la SF, en tant qu'illustrateur, c'est pas le domaine où je me sens le plus à l'aise, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Moi, je suis plus à l'aise en heroic fantasy, d'accord, ou en steampunk, ou ce genre d'univers. La SF, c'est pas là. J'aime ça, je peux en faire, mais je crois pas que ce soit là où je sois le plus performant. Quand même.
Pourtant, tu as fait des très belles couves, je crois, pour Laurent Genefort aussi.
Oui, j'en ai fait souvent.
Que l'on salue notre ami Docteur Non, qui vient de faire une interview d'ailleurs sur Actualité, où il parle de son dernier bouquin de Space Opera. Allez voir, j'ai tweeté ça. Lors de ton père, tu peux nous dire deux mots sur Dominium Mundi, sur le premier bouquin?
Oui, bien sûr,
de
mais enfin, ce serait pas mieux que ce soit l'auteur lui-même qui en parle, mais oui, je bien entendu.
Non, mais ce que tu as aimé dans ce roman?
Déjà l'histoire. Enfin, déjà, c'est de la SF. Moi, j'aime la SF, mais ça, je te l'apprends pas. Donc, déjà, c'était un vrai plaisir d'avoir un nouveau bouquin de SF à se mettre sous le coude. En plus, c'est long, et moi, j'aime quand c'est long, parce qu'on peut profiter de l'histoire. On n'est pas sur sa fin en disant mince, au bout de 200 pages, au bout d'une heure de lecture, c'est fini. Donc déjà le fait que ce soit un univers d'écrit où tu prends ton temps pour faire l'histoire, pour amener les personnages, pour amener l'intrigue, moi j'aime bien personnellement. Et puis déjà l'histoire est juste géniale. Est-ce que je raconte rapidement le pitch?
Ouais,
je vais le pitcher sans spoiler. C'est tout simplement une croisade, c'est-à-dire qu'il y a des explorateurs qui vont sur une planète étrangère dont je me souviens plus le nom.
Akia du Centaure.
Merci. Et ils s'aperçoivent.
Ah oui, alors, de son bouquin.
Alors ils se font pour la plupart tuer lors de la première exploration. Ils vont envoyer une deuxième exploration, mais lors de la première exploration, ils s'aperçoivent sur les vidéos, je parle sous ton contrôle, qu'en fait il y a un symbole de la chrétienté qui est sur cette planète. Alors là, évidemment, comme le monde que tu décris dans ton livre est un monde qui est gouverné par l'Église de manière globale sur l'ensemble de la Terre, alors là évidemment ils pètent les plombs et ils se disent mais ce serait la tombe du Christ, peut-être, qui serait sur une planète étrangère.
Oui, en fait, la première mission d'évangélisation qui a envoyé un coup de sonde, en fait, pour voir si la planète est habitable, il faut préciser que on se place dans un contexte post-apo, c'est-à-dire qu'on imagine que dans 200 ans, c'est un futur lointain, mais pas trop. La Terre a été ravagée par l'éternelle guerre nucléaire.
Qui va finir par nous tomber dessus. Hein,
voilà, qu'on a l'habitude de voir dans les romans de SF.
Ça se rapproche, ouais.
Voilà, qui sera peut-être plus de la SF très longtemps, malheureusement. Et donc, en fait, le monde que je décris est retourné à une féodalité très teintée de religieux. Et comme l'essentiel des peuples sur Terre ont été éradiqués et détruits au moment de la guerre, en gros, il ne reste plus que le noyau dur européen. Et à cet endroit-là, c'est le pape qui domine maintenant complètement le monde moderne en question et qui a rétabli le Dominium Mundi, c'est-à-dire une doctrine de l'Église qui a vraiment existé au Moyen-Âge et qui visait à étendre le pouvoir et la domination de l'Église à l'univers entier. Alors à l'époque, évidemment, on se concentrait sur la Terre, mais là, maintenant, ça prend tout son sens, puisqu'on est capable de faire des voyages intersidéraux.
Intersidéraux.
Voilà. Et non pas intergalactiques, comme je dis souvent.
Tout à fait. Et là, tu décris une croisade intergalactique, puisqu'ils envoient un énorme...
Intersidéral. S'il te plaît.
Pardon. Puisqu'ils envoient un vaisseau dans l'hyperespace, où je crois qu'il y a un nombre de militaires absolument hallucinant.
Oui, alors il faut juste finir de préciser que donc, la première mission d'évangélisation qui est envoyée sur cette planète pour voir si elle pourrait offrir de nouvelles zones habitables pour l'humanité qui en manque, à cause de l'irradiation de la Terre, découvre sur place un peuple qui est déjà là, un peuple alien, qui a priori n'est pas hostile au premier abord, qui vit dans des cités de manière un peu frustre, hein, ça ressemble un peu au Moyen-Âge, et un jour, stupeur, on tombe sur un temple, au fronton duquel se dresse une croix chrétienne, qui ressemble à une croix chrétienne. Donc déjà surprenant, puis les missionnaires demandent l'autorisation d'aller voir à l'intérieur, et là ils tombent sur une dépouille humaine, enveloppée dans un suaire avec une couronne d'épines. Et donc évidemment, cataclysme dans la chrétienté, on pense avoir trouvé le nouveau tombeau du Christ, après, donc je rappelle pour ceux qui ne savent pas forcément, que le Christ est supposé avoir été ressuscité et retourné au ciel, donc il n'y a pas de tombeau du Christ sur Terre à proprement parler. Et donc là, on réinvente dans l'urgence un nouveau dogme, où on imagine que, après avoir tenté d'évangéliser les peuples terriens, le Christ est parti sur une autre planète pour continuer son œuvre, et c'est là qu'on a trouvé le vrai temple du Christ. Le vrai tombeau du Christ, pardon. Et donc, évidemment, comme on l'a fait à l'époque pour Jérusalem et la première croisade, que fait le pape ?
Il va lui casser les crânes !
Il revendique immédiatement la possession de ce temple, sanctuaire, au nom du vrai peuple chrétien de l'univers, le seul, l'humanité. Évidemment, les locaux ne sont pas d'accord, massacrent la mission d'évangélisation, et donc le pape décrète une nouvelle croisade. En 2 ou 3 ans, ils construisent un vaisseau gigantesque qui accueille 1 million d'hommes et les envoie sur cette planète pour faire la croisade. Voilà, ça c'est le point de départ.
Bon, on va pas en
dire plus.
Moi, je l'ai pas lu, mais j'étais fortement intéressé pour le lire. D'autant que ça m'a rappelé, alors dis-moi si je me trompe, ça m'a rappelé quand même certaines ficelles et certaines arcanes de Hyperion, avec le cruciforme, avec le côté des soldats de l'Église. Enfin, est-ce qu'il y a eu une influence ? Enfin, est-ce que tu avais lu Hyperion avant ?
Bien sûr que j'ai lu Hyperion avant. Dan Simmons, pour moi, c'est vraiment un auteur majeur dont j'ai dévoré tous les livres. J'ai même eu la chance de faire une couverture pour lui, pour l'édition américaine des 20 ans de son premier roman, qui s'appelle Le Chant de Kali. Mm-hmm. Et c'est un auteur que j'admire énormément. Pas tant pour Hyperion, même si c'est un livre majeur dans la SF, plutôt, si on reste dans la SF, pour Olympos et Ilium, que moi je trouve plus intéressant, plus abouti. J'aime d'autant plus cet auteur pour l'évolution de son style. Mmh. Quand on lit les romans récents qu'il a écrits comme Terror ou Drood, à mon sens, c'est vraiment devenu un grand écrivain. Vraiment. Très complet, très riche.
Pas forcément d'accord avec ses options politiques.
Mais ça, c'est complètement indépendant.
C'est indépendant de l'écrivain.
Je me fiche complètement de ce que pense l'auteur, de ce qu'il fait quand il se lève le matin, etc. Ce qui compte, c'est son œuvre.
Ouais.
Après, effectivement, c'est pas quelqu'un qui a l'air forcément très sympathique. Je n'ai pas suivi en détail les événements, mais j'ai cru comprendre qu'il était un petit peu à droite quand même.
Très, un petit peu.
Mais moi, tant que ça se sent pas dans ses romans, ça m'est complètement égal.
C'est un grand auteur, c'est indéniable. Ok, alors ça, c'est pour Dominium Mundi. Et on va passer maintenant à la nouveauté qui est l'effet domino. Alors l'effet domino, le pitch, c'est l'histoire d'un... Je vais le faire vite fait, c'est l'histoire...
Ce qu'il faut souligner, c'est que moi, quand j'ai commencé le bouquin, je m'attendais François Baranger. Dans ma petite tête, j'ai fait une association science-fiction et je me suis retrouvé à Paris en 1907.
Ah oui.
Mais j'ai aimé aussi.
Voilà, alors c'est en effet un livre qui se passe au début du XXe siècle avec un tueur en série. Et vas-y, alors ton père, tu l'as lu, toi.
Et un détective qui vient de province.
Exactement.
Dans le Paris de l'époque. Mmh. Moi, j'ai eu, en lisant le livre, j'avais en tête la série télé de Simenon, Maigret. Enfin, pour le c'est pas la même époque, hein, évidemment.
Ouais.
Mais ça, c'est un peu l'image que je me construisais pour continuer à lire le livre. Même
ouais,
si
pas.
C'est pas tout à fait ça.
Oui, j'avais pas ça en tête, mais c'est pourquoi pas.
Et donc, on appelle un détective. Donc, c'est le préfet qui est le préfet Lépine, qui a inventé le
fameux
Louis
concours Lépine.
Louis Lépine, donc, qui est un des personnages du livre, et qui fait appel à un détective provincial avec un certain passé qu'on découvrira au fil du livre. Et il va constituer une petite équipe pour enquêter, alors sous couvert en fait d'une étude sur la violence urbaine à Paris, je crois.
Sur les Apaches. Ouais.
Sur les Apaches. Et ils vont enquêter sur ce tueur en série qu'on appelle le Domino.
Oui, en fait, l'idée, c'est que quand le livre commence, ce qu'on appelle à l'époque un assassin à répétition, parce que le mot serial killer ou tueur en série ne vient qu'à partir des années 70. Donc, il y a un tueur terrifiant qui fait couler beaucoup d'encre dans la capitale parce qu'il s'attaque à l'entourage de personnalités fameuses, notamment Marie Curie et Camille Saint-Saëns. Mmh. Et en plus de ça, il a le front de s'en prendre aux proches des policiers qui enquêtent sur son compte. Donc après le premier meurtre qui concerne une personnalité, la police, les commissaires de l'arrondissement en question nomment un premier inspecteur, et quelques jours plus tard, toute la famille de l'inspecteur est décimée dans des conditions particulièrement atroces. Puis un deuxième meurtre...
Et il laisse sa marque.
Et il laisse une marque qui est un domino dans la gorge tranchée de ses victimes. Puis, quelques temps plus tard... D'où l'effet domino.
Il y a quand même des membres tronçonnés, etc.
Ah oui, enfin, c'est violent.
Oui, c'est pas les choses à moitié.
C'est du dégueulasse. Hein.
Oui. Tu en as lu un bout, toi, Clem, ceci.
Moi, j'ai lu la moitié. J'ai lu, je dois être à 53% là, dans ma liseuse.
Et tu es bien accroché.
Et je suis bien accroché. Et j'ai dû m'arrêter pour lire d'autres choses. Mais je compte bien le finir et... Du coup, me spoilez pas.
Non, on va pas spoiler.
C'est pas l'intention.
Donc, alors, on va pas trop résumer. Hein. Il faut le lire. Puis dans le thriller, c'est tout le plaisir de la découverte. Il y a plusieurs éléments qui m'intéressent. C'est d'abord, je me tourne vers Jérôme qui n'a pas dit grand chose depuis le début. C'est normal. Oui. Je ne lui ai pas adressé la parole. Mais je voulais te demander, est-ce que tu lis de la SF ou de la fantasy ?
Alors, je suis un relativement c'est relativement problématique pour moi la lecture. C'est une question de culture et d'éducation. Et je m'y mets petit à petit, mais très peu quand même.
Il faut te mettre avec le livre audio, c'est bien. Dans la voiture, c'est pratique.
Oui, alors par contre, je suis un peu traditionnel. J'aime bien l'objet,
le vrai bouquin.
L'objet, le bouquin. Ouais, j'aime beaucoup ça.
En tout cas, tu as à côté de toi un auteur tout à fait intéressant. Donc, ce thriller, l'effet domino, déjà, je voulais savoir pourquoi passer de l'ASF au thriller ? Bah, tu en avais probablement envie, mais c'était entre guillemets un plan de carrière où tu t'es dit c'est le moment
tout.
Pour.
Et puis aussi souligner non seulement c'est du thriller, mais c'est aussi un thriller historique. Parce que j'ai l'impression que pour préparer ton livre, tu as fait énormément de recherches.
Ah, c'était la deuxième question, mais je connais d'avance la réponse.
Moi, alors pourquoi un thriller et pas de l'ASF ? Parce qu'en fait, je ne me sens pas écrivain de SF. J'ai commencé avec de l'ASF parce que j'adore ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais en fait. On me demande souvent, par exemple, comment ça se fait que j'écris alors que je suis à la base illustrateur ? Et ça va répondre aussi à ta question. En fait, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans ma tête, j'ai sans arrêt plein d'idées, des choses, des visions qui se forment, des images, toujours très bonnes d'ailleurs, hein, mais ça n'arrête jamais. Et donc pour moi, l'illustration, c'est un moyen de les déverser, de les sortir de ma tête.
Ça doit être fatigant.
C'est épuisant. Et l'écriture, c'est la même chose. L'écriture, c'est un débouché. Mais j'ai fait de la BD. J'ai sorti deux
tomes. Non, mais t'aurais pu rester sur la BD. Mais
non, parce que
écrire un roman, c'est quand même un exercice très particulier.
Oui, mais justement, quand j'ai commencé à avoir cette envie de raconter des histoires un peu plus poussées que juste par le biais d'une illustration, bah, naturellement, je me suis tourné vers la BD. Et je me suis rendu compte en le faisant que bah, finalement, j'étais pas très à l'aise là-dedans. Et donc, bah, j'ai poussé le truc au bout, le raisonnement jusqu'au bout, et je me suis mis à écrire des romans. Et là, ça a bien marché. Et donc pourquoi, pour revenir à ta question, pourquoi changer d'univers ? Ben, exactement pour la même raison qu'en illustration, j'aime bien varier énormément les plaisirs et pas faire par exemple que de l'heroic fantasy. Donc moi, si je passe deux mois sur une prod d'heroic fantasy, je vais avoir qu'une envie, c'est de faire de l'ASF. Mm-hmm. Si je fais de l'ASF, j'aurai qu'une envie, c'est de faire du steampunk et ainsi de suite. Je suis jamais content de ce que je suis en train de faire, en fait. J'ai toujours envie de faire autre chose.
De passer à autre chose.
Voilà. Et donc, après deux tomes de 1500 pages en tout de Dominium Mundi, oui, je peux te dire que j'avais plus envie de faire de la SF.
C'était pesant, ouais.
Et donc, le truc à l'opposé, pour moi, c'était un roman historique, un thriller, à Paris en 1907, c'était parfait.
Alors, Laure Tempère, tu as posé la bonne question. La documentation, parce qu'on sent que c'est très documenté, mais en fait, François a une bonne raison pour ça, donc tu vas nous expliquer.
Ah, là je vois pas.
Alors, c'est quoi, Stéphane m'a dit que il y avait des histoires de famille pour ta documentation.
Non, ça c'est une anecdote, mais c'est pas le fond du. En fait, moi j'avais envie de faire un thriller après Dominium, et parce que j'avais une idée, l'idée qui sous-tend le bouquin, je l'avais dans la tête depuis un petit moment. Et en fait, je cherchais un contexte, je cherchais un déclencheur. Et le déclencheur, ça a été quand je suis tombé sur un vieux guide Baedeker. Alors, le guide Baedeker, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des guides de voyage, un peu comme le guide du Routard, début du siècle dernier, même fin 19e d'ailleurs, pour les premiers, qui proposait une explication complète des grandes capitales européennes, mais vraiment complète, quoi, telles qu'elles étaient à l'époque.
C'est-à-dire ça allait au-delà de l'indication des meilleures tables ou
C'est comment vivais
vivre,
à l'époque, voilà,
c'est ça,
et comment il fallait se comporter, etc. Et donc j'étais tombé comme ça chez un bouquiniste sur un guide de Baedeker de Paris de 1907. Et j'ai commencé, je l'ai acheté parce que ça m'amusait, il y a des vieilles cartes, c'est rigolo et tout. Et j'ai commencé à le lire et je me suis rendu compte que ça se lisait comme un roman. C'est-à-dire que c'est passionnant de voir comment les gens vivaient à l'époque à Paris, comment tu faisais pour te rendre d'un point à un autre, quel genre de restaurant il y avait, qu'est-ce qui n'existait pas encore, qu'est-ce qui existait encore et qui a été détruit depuis, ainsi de suite. Par exemple, dans le guide que j'avais, le Sacré-Cœur était en construction.
Ah ouais.
Voilà, c'est le genre de choses auxquelles on ne pense pas aujourd'hui. Il y a des rues qui n'existaient pas, d'autres qui... Enfin,
bah, évidemment.
Et donc, je me suis dit, voilà, c'est ça le déclencheur qui m'attendait.
Décorum.
Je me suis dit, là, j'ai une mine, mais un puits sans fond d'informations. Donc, et des informations parfois très difficiles à trouver. Par exemple, combien coûte un voyage en fiacre dans Paris? Vas-y, pour trouver ça sur Internet. Là, moi, j'avais tout. J'avais les horaires des omnibus.
Alors, combien coûte un voyage en fiacre dans Paris?
Je m'en souviens plus.
Quelques centimes. Enfin, c'était des francs déjà à l'époque.
Non, c'était des francs. C'était déjà en francs. Ouais.
Donc, oui. J'imagine.
Et donc, c'est parti de là. Mais ça ne suffisait pas, évidemment. Et c'est vrai qu'il y a eu un énorme travail de documentation, parfois vraiment fastidieux même.
Ça se sent dans le livre.
Ouais,
c'est un gros travail.
Et pas que pour le contexte, aussi pour la langue, tout simplement. C'est à savoir comment on parlait à l'époque, comme c'est en jeu narratif, c'est le personnage qui s'exprime, et ben du coup, il fallait qu'il ait quand même, on ait l'impression qu'il s'exprime comme on s'exprimait à l'époque, à peu près. Donc j'ai lu, j'ai relu plein de Zola, de Balzac, etc., pour me mettre la langue dans l'oreille. Et j'ai acheté des dictionnaires de l'époque sur eBay, donc des dictionnaires de 1910.
Ah oui, carrément.
Oui, parce que toutes les deux phrases, tu te demandes, tiens, ce mot-là, est-ce qu'il existait à l'époque? Ou est-ce qu'on l'employait dans ce sens-là? Et il y a des pièges, mais sans fin. Arrêt, tu tombes sur tu crois qu'on s'en servait, on disait pas comme ça à cette époque-là.
Mais il me semble que tu fais, enfin, j'ai eu ce sentiment, je me rappelle plus précisément lesquels, mais tu fais des petits clins d'œil au futur, de temps en temps.
Fais des petits. Bon, pas trop quand même.
Non, c'est une
de
fois,
mémoire,
une
oui,
deux
de
fois,
mémoire, je fais une petite blague sur le côté un peu vieux jeu et. Comment dire, pas très visionnaire de mon héros qui pense que le métro ça marchera jamais, qu'il le dit, qu'il trouve ça ridicule, que les gens n'ont jamais envie de s'enfermer sous terre. Pour, comme des taupes pour se déplacer, alors que Lépine, lui, au contraire, c'est le visionnaire qui dit mais si, c'est formidable, à l'avenir tout le monde se déplacera comme ça.
Il y a aussi les personnages, parce que par exemple Lépine, c'est un personnage que tu présentes avec un caractère très fort, mais aussi Albertine.
Alors effectivement, donc pour terminer rapidement sur la présentation de tout à l'heure, le problème qu'ils ont quand il s'agit de confier l'enquête à un nouvel inspecteur, c'est que plus personne ne veut enquêter là-dessus.
Ouais.
Parce que c'est pas toi qui es en danger, parce qu'à la limite j'imagine qu'un policier assume l'idée d'être en danger quand il travaille, mais là c'est ta femme et tes enfants qui sont odieusement massacrés, donc plus personne ne veut travailler dessus. Donc il faut faire venir quelqu'un qui déjà n'est pas connu à la capitale, qui n'aura pas de proches, qui n'a pas de famille et qui est connu pour ne pas avoir d'amis parce qu'il a un caractère épouvantable. Et donc on fait venir ce type qui en plus est un très bon inspecteur et à qui on demande d'enquêter dans le plus grand secret, mais comme il n'a pas de connexion dans la capitale, il faut quand même lui donner une petite équipe, des assistants.
Et alors du coup comme ça s'il se fait zigouiller dans l'affaire, tout le monde s'en fout.
Ça fait partie de ce qu'on lui dit.
Ouais,
lui dit, c'est à vos risques et périls, s'il se passe quelque chose, on ne sera pas au courant. Voilà. Et donc on lui adjoint un jeune flic assez inexpérimenté, mais très au fait des techniques de pointe de la police moderne, la police scientifique naissante à l'époque, et une jeune assistante qui a réussi à faire le forcing, parce qu'à l'époque, les femmes ne travaillaient pas vraiment dans la police, et pour des raisons diverses expliquées dans le roman, elle réussit à faire le forcing pour se retrouver dans cette équipe, et qui a un très fort caractère elle aussi, donc ça fait des étincelles tout de suite avec le personnage principal, et qui est une, ce qu'on appelait à l'époque une suffragette, c'est-à-dire c'est une féministe enragée qui supporte pas la moindre marque de paternalisme. Ouais,
elle démarre au quart de tour.
Ouais, c'est... Et donc voilà, c'est cette équipe, et ils finissent par s'adjoindre aussi les services d'un journaliste qui lui connaît par cœur les réseaux de la capitale. Et donc à E4, ils forment comme ça une équipe un peu...
Une espèce d'attelage un peu étrange. Les brigades du tigre avant l'heure.
Oui, c'est un peu ça, oui.
Mais ce qu'on remarque, enfin en tout cas, ce qui a l'air d'avoir plu à Lord Ton Père, c'est au-delà de l'histoire, c'est justement toute cette description de personnages, tout cet univers qui est très riche.
Moi, c'est avant tout, c'est en fait...
Et Clem s'approuve de la tête.
Ce qui est très agréable, c'est l'histoire et les personnages... le décor, enfin le
Paris de l'époque,
le Paris 1907 et les personnages. Moi, je mets dans le trio tête, je mets l'histoire en troisième, même si elle est bien aussi.
D'accord. Vas-y, Clémence.
Alors moi, il y a quelque chose qui m'a frappée. Je ne sais pas si je suis la seule à avoir eu cette impression-là. Et je trouve ça super intéressant que tu aies fait beaucoup, beaucoup de recherches sur le sujet pour l'exactitude sur l'époque. Parce que moi, je trouve que c'est hyper actuel, tout ce que tu racontes. Ouais. Et finalement, tu pourrais reprendre la même histoire. Alors, j'en suis qu'à la moitié. Hein. Peut-être qu'après, il se passe des choses.
Oui, Paris est intemporel.
Mais tu décris justement la construction du métro, les percées des boulevards haussmanniens, etc. Et c'est plein de choses qu'on a encore aujourd'hui. Le personnage d'Albertine qui est féministe est quelque chose qu'on retrouve aussi aujourd'hui. Il y a une nouvelle vague, une troisième, quatrième vague maintenant de féministe. Enfin, on est sur des sujets qui sont très très actuels en fin de compte.
Alors, en fait, c'est une période où il y a un basculement quand même. Le début du XXe siècle, c'est quand même... Le début du futur pour les gens de cette époque-là. C'est Paris change d'aspect depuis une vingtaine d'années à cause ou grâce au baron Haussmann, suivant les goûts. Des innovations technologiques arrivent tout le temps, notamment grâce aux expositions universelles. Les transports permettent visiter la France, voire le monde de manière beaucoup plus... les gens sont beaucoup plus informés de manière générale. Et surtout, les mœurs et la politique évoluent énormément à cette époque-là. Par exemple, moi, j'étais étonné de voir que la peine de mort a failli être abolie à cette époque-là. Mmh. Et ce que je raconte au tout début du livre, en ouverture, au hasard d'une discussion entendue dans le train, c'est que c'est un fait divers qui empêche l'abolition. C'est tout simplement ça. Un fait divers horrible, où c'est comme toujours un enfant qui est impliqué, un enfant qui est tué, violé et tué. Et donc ça frappe tellement l'esprit des gens qu'on n'imagine pas une seconde que son bourreau ne soit pas exécuté à son tour. Et donc les politiciens de l'époque manquent un peu de courage peut-être et renoncent à abolir la peine de mort à cause de ça, mais sinon, c'était fait. Sinon, 70 ans plus tôt, la peine aurait été abolie. Mmh. Et donc c'est vrai que c'est un monde qui est... c'est le monde du futur qui commence à arriver comme ça par petites gouttes. C'est pour ça par exemple que je fais tout un épisode sur un voyage en dirigeable. C'est pas anecdotique, c'est parce que c'est vraiment, on pense à cette époque là que c'est l'avenir, et évidemment ils seront cruellement démentis puisque 15 ans plus tard c'est terminé et c'est l'aviation qui prend le relais.
D'ailleurs il y a un personnage qui l'évoque.
Oui, il y a effectivement un personnage qui lui est passionné.
Un peu plus tard que 15 ans pour le dirigeable. C'est, en fait, c'est vraiment l'accident du Édimbourg qui...
Hindenburg,
oui. Qui va mettre un point final à le développement des
C'est pas que ça, c'est ça, et c'est le fait que l'avion est le plus performant. Parce que le dirigeable, comme son nom l'indique, c'est jamais qu'un ballon, donc qui n'est pas dirigeable, qui va au gré du vent, sur lequel on a mis des hélices. Et du coup, il a fallu que je me documente beaucoup sur la façon de piloter un dirigeable, et je me suis rendu compte à quel point c'était un enfer. C'est une galère sans nom.
Le Hindenburg, donc on est dans les années 30, et juste après, la décennie qui suit, ça va être la Deuxième Guerre mondiale, où l'aviation va, comme pendant la première, faire des progrès phénoménaux, en particulier en termes de distance parcourue. Ouais. C'est après la Deuxième Guerre mondiale que le trajet transatlantique direct en avion va commencer à devenir commun.
Oui, mais l'aviation se développe énormément pendant la Première Guerre mondiale du point de vue militaire, et on passera rapidement du biplan au monoplan. Et faut quand même se rendre compte qu'en 1907, au moment où j'écris, enfin au moment où j'écris, au moment où se situe l'action du livre, oui, je fais pas mon action. En 1907, les avions sont embryonnaires, c'est juste des démonstrations sur des champs de course où ils volent pendant 50 mètres, et 60 ans plus tard, on est sur la Lune. Donc la vitesse de développement de l'aéronautique, c'est une courbe exponentielle, c'est extraordinaire. Et le dirigeable n'a pas pu faire face à ça. Et par même s'il n'y avait pas eu l'accident d'une Dunbar, c'était fini.
Mais par contre, le principe du dirigeable revient un petit peu dans les papiers régulièrement, dans les,
ouais, oui, c'est un
les
serpent
explorations.
De mer.
De...
Ouais. Oui, parce qu'il a l'avantage de pouvoir soulever des charges extrêmement lourdes pour un coût ridicule. Mais il reste quand même un problème majeur, c'est que tu es le jouet du vent. C'est-à-dire quand t'es indirigeable, le moins de coups de vent, bah, t'emmène. Et c'est, ça, c'est très compliqué à gérer. Quoi.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez le site communautaire Babelio, qui recense évidemment tout ce qui est édité, et beaucoup de critiques de lecteurs. Il y a déjà une critique de quelqu'un qui a dû avoir ton livre en service de presse, et qui est excellente. Donc, ça commence bien, les critiques sur Babelio.
Je lui ai envoyé un chèque.
Un 18 sur 20, bien mérité pour les 570 pages qui l'ont littéralement plongé dans cette histoire. Et surtout dans cette époque. Donc voilà, c'est a priori...
C'est vrai que ça se lit très bien, très facilement.
Alors, pourquoi être passé... alors j'imagine, j'ai une petite idée de la réponse, mais pourquoi être passé de critique à Bragelonne?
Ça, c'est un peu au gré des circonstances.
Parce que c'est Lila Siwat qui s'occupe du thriller chez Bragelonne. Et donc c'est elle à qui tu as confié le manuscrit, ou ça s'est fait comment en fait?
Non, j'ai un agent en fait qui s'occupe de ça.
D'accord.
Donc c'est
mon
rare, agent.
Des agents littéraires en France.
C'est assez rare, mais ça commence à se répandre, si j'ai bien compris l'idée. Et moi, je pense que c'est quand même une pratique qui va de plus en plus concerner les auteurs français, ne serait-ce que pour une raison simple, c'est que pour toucher le marché étranger, tu es pratiquement obligé d'avoir un agent. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'en France où il y a cette relation un peu... étrange, enfin pas étrange, mais inhabituel entre l'auteur et l'éditeur, qui est une relation directe, qui est presque parfois une relation sentimentale.
Oui.
Non, mais c'est vrai.
On a déjà parlé d'ailleurs avec Stéphane Marsan dans Dreamon,
qui
est très particulier à la France.
Qui peut avoir ses avantages, mais qui peut aussi parfois créer des problèmes. Alors que l'agent, bah, finalement, c'est une sorte de tampon, d'intermédiaire, et surtout, c'est quand même quelqu'un qui, a priori, à la capacité de donner la plus grande diffusion aux œuvres, y compris pour les droits dérivés.
Juste une question à nouveau sur ton livre Domino. Est-ce que, alors, j'ai l'intuition de connaître la réponse, mais est-ce qu'on peut penser avoir une suite ou la suite des histoires des personnages?
C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. C'est comme quand on me la pose sur Dominium Mundi. C'est aujourd'hui, écrire une suite à Dominium Mundi, c'est impensable. Ça ne me viendrait même pas à l'idée. Mais dans 10 ans.
Pourquoi
qui sait,
pas.
Tu vois, dans 5 ans, dans 20 ans, qui sait de quoi l'avenir sera fait. Il y a 10 ans, j'imaginais pas une seconde écrire un thriller débutier à Paris.
On a peut-être envie de faire un autre, dans un autre style.
Tout est possible.
Et tu as un projet en cours ou pas?
Oui, j'ai un nouveau roman en cours d'écriture, je suis au milieu à peu près. Là.
Alors, mais dans quel univers?
Alors, cette fois-ci, c'est contemporain, parce qu'en fait, j'en ai marre de me documenter. Dominium Mundi, je m'étais documenté comme un dingue sur les croisades. L'effet domino, je me suis documenté comme un dingue sur Paris en 1907. Donc là, j'en ai eu marre, je me suis dit, cette fois-ci, j'écris un truc contemporain, qui se passe avec des gens normaux, des gens qui ont des smartphones et qui sont sur Internet, comme ça, c'est pas compliqué. Et c'est un roman d'aventure, bon, je vais pas le pitcher maintenant, mais... un peu, pour faire très très simple, un peu à la Crichton, ce que faisait Michael Crichton, ce genre de roman.
L'auteur qui a fait Jurassic Park, entre autres, hein, Congo, qui a fait...
Il a fait un Paxson.
Westworld. Jérôme, tu avais une question.
Oui, j'avais une question, moi, sur la création de tes personnages. Est-ce que tu as une rédaction des profils à l'avance, ou est-ce que c'est une écriture du personnage au fil de l'écriture?
C'est un peu des deux en fait. Je suis pas un grand technicien de l'écriture puisque moi ma formation initiale c'est plutôt dessinateur. Donc c'est vrai que c'est plutôt à l'intuition pour l'instant. Sur Dominium Mundi ça m'a joué des tours. Il a fallu que je réécrive des pans entiers du roman parce que j'étais parti bille en tête dans une direction sans faire vraiment de plan précis. Et donc il a fallu que je revienne en arrière. Ça a pas été très marrant.
Voilà.
Et je me suis pas fait avoir sur Domino. Mais par contre je vais pas jusqu'à faire des fiches de personnages. C'est vrai que l'histoire définit mécaniquement un peu les personnages.
Le travail avec Lila, la directrice de collection du thriller chez Brajlon, a été très fructueux, compliqué après coup.
C'est un travail classique de correction. En fait, le livre était complètement terminé et abouti quand on l'a présenté aux différents éditeurs, donc entre autres à Brajlon. Et donc il y a eu pratiquement, il n'y a même pas eu de retouches structurelles du tout. Le livre était vraiment complètement abouti. Après, c'est un travail de relecture, évidemment, en termes stylistiques, de français. C'est la chasse aux coquilles et aux problèmes de français, c'est un puits sans fond. c'est un tonneau des Danaïdes. Donc c'est surtout, c'est un travail là-dessus. Remettre des imparfaits du subjonctif quand il en manquait, ce genre de choses.
Donc en tout cas, tu n'abandonnes pas l'écriture puisque tu es en pleine écriture du prochain roman. Tu continues à faire de l'illustration, du game design aussi, pourquoi pas du cinéma. Enfin, tu lâches
non,
rien.
Non, le cinéma c'est terminé.
Non, ça y est, le
comme
cinéma,
réalisateur,
bon.
Ça j'en fais plus. Et maintenant, cinéma c'est comme concept artiste. Donc là récemment, par exemple, j'ai travaillé sur le prochain film de Christophe Gans ou celui de Neil Blomkamp. Ou le dernier film d'Alain Chabat aussi. Et donc ça je continue. Mais c'est vrai que j'essaie de développer de plus en plus l'activité écriture et l'activité auteur en tant qu'illustrateur cette fois, avec un projet dont je ne peux pas parler en détail aujourd'hui, mais qui est un beau livre d'illustration dont on sera amené à reparler.
On en reparlera. Oui. On en reparlera.
Grand mystère, mais...
Bon, ben, très bien. Puisqu'on parle de différents univers, je me tourne vers Clémence. Et est-ce que tu aimes le jeu est-ce que vous aimez le jeu, Jérôme
je crains,
et François?
Oui, d'aimer beaucoup le jeu.
Tu aimes le jeu, d'accord. Clémence, toi aussi tu aimes le jeu, et donc je n'ai pas encore préparé de jingle, et nous avons dit tout à l'heure, avant d'enregistrer la mission, que le jingle serait créé à la bouche par Lord ton père.
Ah, je peux le faire en mangeant mon sandwich.
Donc, à toi de jouer, Lord ton père, un jingle pour Clémence, pour sa rubrique sur le jeu.
Tadam ! Attention, préparez vos manettes. Florence arrive.
Non, Clémence, pas Florence.
Ah mince, c'est pas grave.
Allez, recommence.
C'est le rodage, hein, c'est le rodage. Clémence arrive avec des jeux. Sortez les manettes, ça va claquer.
Ouais, pas mal, pas mal. Bon, ok, on va essayer de se trouver un jingle un pour la prochaine
mieux.
Fois. Vas-y, Clémence.
On va y travailler. Donc, cette chronique, hein, l'objectif, c'est de parler de jeux. C'est une chronique ludique. Ça sonne pas mal, ça, la chronique ludique.
C'est bien, la chronique ludique.
Alors, François, pas de bol, hein, c'est toi qui inaugure. Ah. Désolé.
Je m'y colle.
Et quand on a décidé que je parlerais de jeux, je me suis dit, jeu, effet domino.
Ah, bah oui, il y a quelque chose.
Facile, ça va être simple à préparer pour la première, pas de pression.
Les dominos. Voilà. Alors, si vous n'avez jamais joué au domino...
non, pas du tout. Le jeu de domino, c'est un faux bon sujet, hein. Donc déjà quand on cherche domino dans Google, on tombe d'abord sur Domino's Pizza. Ah. Alors du coup forcément ça m'a donné faim.
On aime bien ça. Mais
nous on aime bien. Hein.
Voilà,
mais
ça m'a donné faim, ça m'a déconcentré, j'ai dû aller m'en chercher une.
C'est de la nourriture de Rollis, ça.
Tout à fait. Et de Captain Web, c'est la base de la nourriture du Captain.
Et donc une pizza 4 fromages supplément pepperoni plus tard, je me suis replongé dans mon moteur de recherche. Bon. Vous serez sans doute aussi heureux que moi d'apprendre que Domino, c'est le portail de la documentation électronique du service commun de la documentation de l'Université Paris Panthéon-Sorbonne.
Waouh, ok.
Voilà, Domino, c'est aussi un spectacle de théâtre contemporain. Entre danse et théâtre, Vasistat's Théâtre Group offre une métaphore de notre société sclérosée où certains tentent de dessiner une alternative. Bon, du théâtre contemporain.
C'est aussi une James Bond girl, si ma mémoire est bonne.
Tout à fait. Ouais. Si ça vous intéresse, ça joue à la salle polyvalente Maria Cazares de Montreuil le 28 février prochain.
Ah, Montreuil, dans le 93. Voilà. Je suis né là-bas.
Et c'est seulement après tout ça qu'on arrive enfin à la page Wikipédia du jeu de Domino. Donc, on y apprend que c'est un jeu de société qui est d'origine chinoise et qui utilise 28 pièces. Je ne vais pas vous lire toute la page. Hein. Le but du jeu de Domino, c'est d'être le premier à avoir posé tous ces dominos. Voilà. Mmh. Tout ça, c'est cool. Moi, la dernière fois que j'ai joué, je pense que j'avais 8 ans, pas plus.
Avec ta grand-mère.
C'était chez mon arrière-grand-mère. Exactement.
Pareil.
Mais je pense que personne, après ces 8 ans, n'a joué au domino.
Non.
Et finalement, moi, ce qui me plaisait le plus, c'était les vidéos du Domino Day. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est.
Ah oui, les mecs qui en faisaient tomber des milliers.
Voilà.
Mais bien sûr.
C'est on met
ça depuis le début,
ouais. Des milliers de dominos les uns après les autres, on en pousse un et réaction en chaîne. C'est un événement annuel.
Non, mais il y a des trucs impressionnants.
Ça
hein.
a vu le jour. Bah oui, ça a vu le jour aux Pays-Bas pour la première fois en 86. On a retransmis ça et aujourd'hui on est à plusieurs centaines de milliers de dominos qui tombent les uns après les autres. C'est diffusé dans tous les pays d'Europe quasiment. Moi j'étais hypnotisé par ça. Essayez, hein, tapez Domino Day dans YouTube. Je pense que vous allez perdre une bonne demi-journée. Vous pourrez me remercier.
Il y a de quoi voir, ouais. Et en plus, c'est chouette. Enfin, je veux dire, il y a des trucs vraiment très impressionnants. Et est-ce que ça continue ? Ça continue.
Alors, ça continue. La dernière émission diffusée en France, c'était sur D8 en 2014.
Ah oui.
Et il y a une collecte Ulule qui a atteint d'ailleurs son objectif de 500 €. Un Domino Day made in France. L'objectif, ouais, c'était
500 €. C'était pas ambitieux.
Donc pas en faire des masses. Hein.
Mais ils ont visé juste. Hein, c'était pour organiser donc un Domino Day de 50 000 dominos à installer. C'est à venir en mars-avril 2017 dans les Pyrénées-Orientales.
D'accord. Très bien.
Mais je crois qu'on a fait le tour.
On a fait le tour. Mais bah, bravo, merci beaucoup Clémence. C'est vrai que tu t'étais renseignée sur les dominos avant de prendre ce symbole pour ton
non,
tueur en série.
Non, pas particulièrement. Non.
Bah, maintenant, tu sais tout. C'est parfait. On enchaîne sur la rubrique de Herbie, notre ami Herbie.
Oui.
Alors, c'est parti pour la rubrique SF. J'ai oublié de remercier Clémence parce que c'était vraiment extrêmement intéressant. À toi de jouer Herbie et de nous faire rêver avec un certain nombre de livres, en dehors de l'effet domino dont on va tous procurer un exemplaire pour se le faire dédicacer par François. D'ailleurs, François, tu as des séances de dédicaces prévues ou des présences en salon ?
Il y en a, mais je les ai pas en tête. elles seront postées sur la page Facebook de l'effet domino.
Très bien.
La fanpage. Que je vous invite à liker, à partager en grand nombre.
Tout à fait. Donc on tape effet domino et on va tomber ça sur Facebook. On va liker la fanpage. Herbie, tu es bien enrhumé.
Un peu. Bah, c'est l'hiver, donc.
C'est l'hiver.
Moi, je suis enrhumé l'hiver. Je suis enrhumé tout l'hiver.
Et donc
et tous les hivers.
Et donc avec ton nez légèrement bouché, tu vas nous parler de quelle typologie de livres.
Alors déjà je vais essayer d'être à la hauteur de Clémence qui met la barre assez haut. Hein.
Ah,
jusqu'ici
ouais.
Je me tournais un peu les pouces, là, c'était peinard, il y avait personne pour faire les talons. Les maîtres étalons là maintenant, on peut comparer.
Non mais ce que je ferais c'est, je manque aussi un peu d'expérience maintenant que j'ai deux formidables chroniqueurs, il va falloir que je sépare les chroniques parce que vous enchaînez l'un derrière l'autre, c'est un peu dommage. Donc,
je vais pas me faire virer quand même.
Toi t'es viré, toi tu vas prendre ton chèque à la fin de l'émission.
Mais lequel?
Vas-y Herbie.
Je peux être viré aussi pour avoir un chèque.
Non, toi tu restes.
Bon, alors moi donc
pas moi donc.
Mais si, Lord Tempé, on peut pas faire sans toi.
Donc l'effet domino, c'est, je dis pas de conneries, hein, c'est, oui non c'est ça l'effet domino. Donc
oui,
on démarre donc Paris 1907 et moi en pensant un petit peu là, l'imaginaire derrière, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. La première chose qui m'est venue en tête, c'est un bouquin qui est sorti il y a maintenant pas loin d'une dizaine d'années je pense, mm-hmm. qui est Les démons de Paris de Jean-Philippe de Potte. Qui a été publié à l'origine chez De Noël et qui a depuis été repris en poche chez Folio SF, et qui est un roman qui se passe au début du XXe siècle à Paris, mais là par contre c'est un Paris qui n'est pas tout à fait celui qu'on connaît, parce que la présidente du conseil, je dis bien la présidente du conseil, donc c'est une femme, et on a un aspect un peu fantastique puisqu'on va suivre entre autres un jeune prêtre qui a comme particularité de pouvoir dialoguer avec les morts. En ce début du XXe siècle, le métropolitain, c'est fun, c'est beau, c'est moderne, et puis on essaye de le vendre un petit peu à l'étranger. Donc, comme le tsar Nicolas II vient faire une petite visite dans la capitale, monsieur Fulgence Bienvenue va se faire un plaisir de lui faire visiter le métro. Tout ça inquiète un petit peu le préfet Lépine et les autorités, parce que une espèce de d'anarchiste russe nommé Lénine traîne dans les parages. Donc voilà, on a une espèce de petit cocktail un peu de figures historiques, un peu décalé, avec un abord fantastique, avec aussi un dialogue avec les fantômes. Et tout ça forme un ensemble qui est vraiment très agréable à lire, un peu surprenant au début parce que c'est pas vraiment le genre de choses qu'on arrive à mettre un peu ensemble. Mais au final, moi, j'en étais vraiment ressorti charmé de ce bouquin, et je l'ai lu donc maintenant il y a, ouais, je vais dire pas loin de 10 ans, je pense. Et j'en garde encore toujours un très très bon souvenir.
Mmh.
Et c'est un auteur qui après a continué à exploiter un petit peu le filon fantastique avec un livre sur Nostradamus, un autre avec des ambiances japonisantes, etc.
Très bien. Est-ce que tu as alors, je me permets, oui, de te couper, Herbie, François, est-ce que tu as lu d'autres auteurs de l'époque pour, en dehors de, tu parlais des auteurs du 19e?
Oui, les classiques, ouais.
Mais tu as lu d'autres auteurs alors, qui ont écrit sur l'époque?
On écrit sur l'époque. Ah, des auteurs récents, tu veux dire,
ouais,
qu'on écrit
sur cette époque.
Ouh là, ça va pas me venir comme ça. Si j'ai lu un truc, mais j'ai oublié l'auteur. Sur Oscar Wilde. Oscar Wilde, les frasques d'Oscar Wilde, c'est une série hyper longue où il prend Oscar Wilde comme personnage principal, mm-hmm, et où il y a toujours des meurtres, un peu à la Agatha Christie. Honnêtement, ça m'a pas paru extraordinaire, c'est pour ça que je me souviens pas de l'auteur d'ailleurs. Mais c'est assez rigolo à lire. Et non, en fait, le bouquin, bizarrement, qui m'a le plus influencé, même si l'histoire n'a aucun rapport, c'est un bouquin de l'époque qui s'appelle Là-bas de Huysmans, mm-hmm, et qui est un livre absolument incroyable que je conseille, que je recommande à tout le monde de lire. C'est une espèce de. C'est un auteur qui s'appelle Durtal qui essaye d'écrire une biographie de Gilles de Rais. Mm-hmm. Et donc, le premier serial killer référencé de l'histoire, et pas des moindres. Et pour ça, il se plonge dans le Paris interlope de l'époque, notamment les messes noires, le satanisme. Et c'est un livre absolument incroyable. C'est très fort, très noir, et très intéressant. Et en plus, pour quelqu'un qui cherche à se documenter sur l'époque, c'est vraiment très complet. Quoi.
Donc Là-bas.
Là-bas, de Huysmans.
De Huysmans. Très bien. Herbie, je te rends la main.
Oui, alors je vais enchaîner avec un livre plus récent, enfin surtout qui arrive chez nous, qui vient d'arriver là en janvier, qui est La chute de la maison aux flèches d'argent de Aliette de Baudard, publié chez Fleuve Noir. Mm-hmm. Donc Aliette de Baudard, qui est une auteure française, mais qui écrit en anglais,
mm-hmm,
d'ascendance asiatique, donc un héritage vietnamien, né aux États-Unis. Donc avec un cocktail un peu particulier et qui a déjà
super
été
mélange.
Alors, ouais, qui a déjà été publié en France en partie aux défuntes éditions Eclipse,
ouais,
une série de fantasy d'inspiration aztèque, mais qui alors c'est une auteure qui en anglais en plus a été déjà récompensée à multiples reprises en particulier pour des nouvelles et des novellas du Hugo, du Nebula, enfin elle a déjà sa barquette pleine de beaux prix et elle revient à nouveau traduite en France enfin avec donc la chute de la maison aux flèches d'argent. Alors qu'est-ce que c'est que la maison aux flèches d'argent et sa chute? Alors on est à nouveau d'un Paris, toujours un Paris un peu fantastique et une sorte de Paris post-apo aussi, mais un post-apo de la Belle Époque en fait, comme si l'apocalypse avait eu lieu au moment de la Belle Époque. On est dans les ruines de cette cité. Et la société s'est réorganisée en sorte de maisons qui sont dirigées par des déchus, qui sont des anges qui ont été chassés du paradis. Donc notamment, il y a assez fortement question de l'étoile du matin, Lucifer. Et dans ce Paris un peu étrange, on suit un personnage qui est vraiment atypique, qui s'appelle Philippe, si je ne dis pas de bêtises, et qui est un ex-immortel, mais qui lui vient de l'Annam. Donc l'Annam, c'est le Vietnam. Mmh. Le Vietnam colonial du début du XXe siècle, qui donc vient avec son passé et sa connaissance, on va dire, un peu du monde fantastique et divin du Vietnam, et qui est confronté au monde fantastique et divin européen. Et qui échoue dans cette ville, qui va être récupérée par une des maisons, la maison aux flèches d'argent, et puis on va voir un petit peu les intrigues qui vont se développer autour de ça, des problèmes de pouvoir, de conflits entre les maisons. Et alors c'est un univers vraiment étrange, c'est un endroit qu'on connaît bien, j'allais dire déjà dans le pour le cas du livre de François, on est dans un Paris qui est pas celui qu'on connaît, qui est celui du passé, donc ça approche, on est en quelque chose de proche, mais quelque chose qui a toujours un petit côté un peu exotique, parce qu'il y a quelque chose qui change. Là, le côté exotique est renforcé, d'une part parce qu'il y a une inspiration de la Belle Époque, et en plus dans la version en ruine,
mmh,
avec des éléments fantastiques. Et ce qui est aussi très intéressant dans ce bouquin, et là on sent vraiment, je pense, l'héritage de l'auteur, c'est le rapport au colonialisme qu'on vit justement à travers la figure de Philippe, qui vient justement de cette colonie française, et qui est donc forcément, bien qu'il est un ex-immortel, donc c'est un être de pouvoir, il est forcément regardé de façon un peu négative par la plupart des gens qui croisent, puisqu'il est exotique. Mmh. Voilà, donc ça, c'est, moi je l'ai lu en anglais quand il est paru, ça devait être à peu près un an et demi, et bah, je suis très content que le livre ait pu être traduit en français et qu'il arrive chez nous.
Il arrive chez qui ?
Chez Fleuve Noir.
Ah, très bien.
Voilà, il est sorti en janvier, normalement.
Très bien.
Et Aliette a écrit une suite. Alors, le livre n'a pas besoin d'une suite, hein, ça c'est son avantage, mais si on veut continuer à explorer l'univers, elle a écrit une suite qui doit paraître ou vient de paraître en anglais.
D'accord. Donc, il y a des chances qu'elle arrive chez Fleuve Noir aussi, peut-être l'année prochaine.
Ah, bah c'est tout le malheur qu'on leur souhaite. Hein.
Ok, c'est cool.
Alors, comme je dérivais un petit peu dans le fantastique et dans la ville, bon, bah, y a ce qu'on appelle un petit peu la fantasy urbaine.
Ouais.
Alors, c'est entre autres toutes les séries de Beatlit qu'on peut imaginer, mais c'est pas vraiment l'abord que j'ai pris là. En enchaînant dans tout ça, mon esprit lui a été allé ensuite dériver dans un côté beaucoup plus sympathique et humoristique vers De bons présages.
Ah oui.
Livre coécrit par Neil Gaiman et Terry Pratchett.
Terry Pratchett.
Ou alors là, le propos est que l'apocalypse se rapproche et Aziraphale, un ange, et Rampa, un démon, qui vivent depuis un bon moment sur Terre, ils ont bien pris goût et ils n'ont pas vraiment envie que ça s'arrête. Du coup, ils ont décidé de prendre un petit peu les choses en main et l'antéchrist étant enfant en train de grandir pour être formé à son brillant avenir, ils ont décidé d'aller prendre un petit peu les choses en main pour réorienter sa carrière. Si ce n'est que, en fait, l'antéchrist n'est pas l'antéchrist, puisqu'on a eu un petit échange de bébé à la naissance, et que donc un simple gamin est élevé pour devenir l'antéchrist, et que le véritable antéchrist lui est élevé comme un simple gamin. Mmh. Voilà, donc toujours comme souvent avec Pratchett, il y a beaucoup d'humour. Le dialogue par écrit, j'allais dire, avec Neil Gaiman est vraiment très sympathique. Et alors je crois que le livre, enfin, des souvenirs que j'en ai, je crois que le livre a pas été une expérience très, bonne expérience en fait pour les deux auteurs quand ils ont écrit l'ouvrage, mais ça fait vraiment partie de ces œuvres écrites en collaboration où la collaboration se passe pas forcément très bien entre les créateurs, mais quand on voit le produit final, on a envie que toutes les collaborations qui se passent pas bien produisent de si belles œuvres.
Et en même temps, deux grands talents. Hein.
Oui, oui.
Ouais, moi, je peux te dire que je suis pas un grand client d'habitude des romans humoristiques. Mais celui-là, j'étais plié de rire du début à la fin, et notamment un truc génial, c'est les notes de bas de page.
Oui.
Il y a toujours des petites références. C'est à mourir de rire.
C'est vraiment une spécificité de Pratchett, ça. Dans son discours, il sème des notes de bas de page et même des notes de bas de page de notes de bas de page. Tu me contrediras peut-être, mais je crois que c'est dans ce bouquin-là qu'il y a cette histoire sur les cassettes laisse dans les autoradios, et si on les laisse suffisamment longtemps,
best of the Queen.
Voilà, en best of the Queen.
Tout le monde avait un best of the Queen dans sa voiture à l'époque.
C'est vrai. Alors, de bons présages, Terry Pratchett et Neil Gaiman. C'est chez qui maintenant ?
C'était chez J'ai lu, et je ne sais pas.
Ça doit
pas
toujours
si...
l'être.
Oui, mais soit chez eux, soit chez le Diable Vauvert, qui a beaucoup d'œuvres de Gaiman aussi au catalogue.
Il y a eu un film qui était très très proche de ce livre, qui s'appelle Dogma de mémoire,
ah,
je
oui.
crois, avec Alan Rickman et Matt Damon. Oui. Et c'est très très proche. On sent qu'ils ont lu le bouquin avant, et le film est très drôle d'ailleurs. Très amusant.
Le film est très sympa, on l'avait passé au New Max. Alors, en hommage à Alan Rickman quand il a disparu. Oui.
Alors, je vais enchaîner avec une autre œuvre de Neil Gaiman, Neverwhere,
oui.
qui est d'abord une mini-série télé que Neil Gaiman a scénarisée, dont ensuite il a adapté pour en former un roman. Alors là, on revient vraiment dans un cadre urbain avec Londres, et où on suit Richard Mayrou, qui est un type finalement avec une vie sans importance, sans relief. Et dont le destin va croiser celui de Porte, une jeune femme qui a comme capacité de pouvoir ouvrir un petit peu toutes les portes. Et il va lui sauver la vie, et sa vie, son existence à lui va être transformée par cette rencontre, et il va justement découvrir que en dessous et autour et à travers le Londres commun qu'il connaît, existe un autre Londres fantastique et rempli de personnages très hauts en couleur. Et donc c'est une très belle œuvre de la fantaisie urbaine pour le coup, où on a vraiment cette redécouverte d'une ville qui est fantastique.
D'accord, bah, Neil Gaiman, hein, toujours.
Toujours.
Enfin, avouez que c'est quand même un immense auteur.
Ouais, ouais. Il a écrit aussi American Gods, Anansi Boy, enfin que des chefs-d'œuvre.
Et c'est un type très
bon scénariste. Très bon scénariste.
Ouais.
Il a scénarisé Beowulf, très bon scénario.
Et un type très, très sympa.
Alors je vais finir avec un comics, et pas du Neil Gaiman, mais quoi qu'il a écrit, je crois, un numéro d'ailleurs de cette série, avec vous parlez de Hellblazer.
Ah,
et de John Constantine. Alors, certains connaissent peut-être Constantine pour l'avoir vu dans l'adaptation du milieu des années 2000 avec Keanu Reeves.
Avec Keanu.
Ouais, avec Keanu Reeves, il y a Tilda Swinton.
Mais c'était pas mal.
Ouais,
hein, et, Clémence, tu l'as vu?
Je me souviens des affiches, mais si je l'ai vu, il m'a pas marqué.
D'accord. Lors de ton père.
Lors de Constantine.
Oh non. Non, tu es dur. Non, c'était fenouille.
Ouais, c'est ça, c'est
fenouille. Voilà. Ça se regarde.
C'est nounouille.
Ceux qui n'avaient pas lu le comics ont aimé le film, et ceux qui ont lu le comics n'ont pas aimé le film.
J'ai trouvé le film très sympathique à l'époque, mais.
Non, mais le problème de Néo.
Ayant vu le.
Moi, je l'appelle comme ça.
Le problème de Keanu, oui.
Le problème de Keanu, si tu veux, c'est que. Le même rôle placide dans tous les films, sans expression.
Oui, il a la même expression partout.
C'est juste épuisant.
C'est épuisant pour lui, surtout.
Et moi, je crois que c'est dans ce film-là, en fait, que j'ai découvert Tilda Swinton.
Ouais.
Qui joue un archange et qui est évidemment exceptionnel.
Ok.
Dans le film où il était bon, c'était Johnny Mnemonic. Chef d'œuvre. Avec le dauphin dans un aquarium.
Ouais. C'était pas. Non, mais c'était pas si pire, mais pour une adaptation cyberpunk, puisque c'est une adaptation de. Comment il s'appelle
Gibson.
De William Gibson, merci de me le rappeler. Oh là là, les neurones sont pas connectés ce soir. Et c'était pas si pire. C'était pas si pire.
Quand même. Hein.
Non, mais c'est évident. Non, mais ça date. Faut voir à quelle époque ça a été fait. C'est le milieu des années 90. Donc on est vraiment.
Oui, c'est à quelques années de Matrix. Hein.
Ouais. Mais Matrix a remis les pendules un peu à l'heure. Hein.
Et dans ce film, en fait, il est transporteur de données.
Oui. Il charge sa tête.
Et il charge sa tête. Et en fait, il a une capacité misérable. Tu sais, il doit avoir 10 gigas, quoi.
Ah, mais ça, c'est tout le problème du cyberpunk. Quand tu lis Neuromancien, il y a quand même des mecs qui se font tuer dans la rue pour 4 mégas de RAM, je crois. Ouais. Je sais même pas si c'est pas 4 kilos. Mais 4 mégas de RAM, ça m'avait marqué.
Mais ouais. Ouais, et dans les mailles du réseau de Stirling, ça se passe en 2020, quelque chose. Et le type s'envoie des messages vidéo à travers le net. Et donc, ça part en bas débit. Donc, pendant 3 heures, ton ordinateur charge le message vidéo. Et ensuite, tu regardes le message vidéo de 3 minutes.
Ouais, mais bon.
Et le cyberpunk est impitoyable. Voilà. Pour ça.
Tout à fait. C'est pour ça que plus personne n'en lit. Ni n'en écrit d'ailleurs. Reviens donc à tes moutons.
Voilà, donc John Constantine. Donc on l'a retrouvé ensuite, pour ceux qui regardent un petit peu la télé en anglais, dans une série qui a duré une saison il y a un an et demi à peu près aux États-Unis, puis qui n'a pas été renouvelée. Mais surtout, donc c'est un comics. Alors à la base, le personnage de John Constantine a été créé par Alan Moore dans Swamp Thing. Mais il a surtout vraiment pris son envol avec sa propre série nommée Hellblazer, lancée dans les années 80. Et donc là, par contre, on va dire finalement le personnage a quelque part été un peu recréé par Jamie Delano à la plume et John Ridgway au dessin. Alors Constantine, qui est John Constantine? Constantine, c'est un Britannique né à Liverpool. Et c'est un, on va dire que c'est un magicien, pour faire simple, hein, un pratiquant des arts un petit peu étranges et occultes. Mais c'est aussi, alors c'est franchement pas un héros du tout, c'est un lâche, c'est un mec qui survit, hein, mais qui fait ce qu'il faut pour survivre, à savoir que s'il faut sacrifier un petit peu des gens pour s'en sortir, il a pas regardé, il regarde souvent pas à deux fois. Et c'est un type irrévérencieux qui boit, qui fume comme c'est pas permis, qui d'ailleurs développe un cancer en cours de route, et puis c'est, en fait c'est juste une espèce de sale enfoiré, quoi. Il faut dire les choses comme elles sont. Et c'est un personnage savoureux à suivre parce que il s'en sort, parce que il bluffe, parce qu'il manipule et parce qu'il a quand même un peu de pouvoir malgré tout au fond. C'est ce qui lui permet d'ailleurs d'asseoir son bluff. Parce qu'on est toujours en doute de se demander si finalement il est pas capable de faire ce qu'il prétend. Et sa vie va être.
Faut voir que c'est aussi un personnage un peu typique du film noir au niveau du look. Hein, il a
un petit peu. Bah alors son look, il est inspiré de, je crois, de Sting, en fait. Non, Sting. Oui, je crois que c'est ça. À l'origine, c'est Sting qui a inspiré le personnage à Alan Moore. Ouais, sur le...
C'est marrant parce que au niveau de la tête peut-être, mais au niveau des habits, il est toujours en impair.
Il est toujours avec sa clope au bec. Alors, c'est un personnage qui a duré... Alors, le comic, c'est le Blazer, a duré 300 numéros. Donc, du milieu des années 80 au début des années 2010. Et c'est un comic. Comme c'est pas un super-héros, Constantine vieillit avec le comics. Donc, on suit 25 ans, j'allais dire, de la vie du Royaume-Uni. On démarre dans l'Angleterre des années de Thatcher. et ça se sent très bien dans le comics. Et puis bah, on finit aux années 2010, ce 21e siècle qui s'annonce si beau et si lumineux et si joyeux.
Et donc Constantine a 50 balais quoi.
Ah, il en a même presque 60 à la D'accord. fin de la série. Alors ensuite, bon, il a été un petit peu rebooté avec les changements de chez DC qui possède Vertigo. Et puis après quelques mauvais traitements, il revient dans des séries un petit peu plus courtes où on revient un petit peu à l'esprit qu'on avait au début. Alors c'est un comics qui a été écrit majoritairement par des scénaristes britanniques. Et je pense que ça se ressent. C'était un petit peu, ça a été un des porte-étendards de chez Vertigo, à côté de Sandman, de séries de cette époque-là. Mmh. D'ailleurs, je crois qu'on croise brièvement le personnage de Constantine dans Sandman. Alors moi, c'est en fait, je crois que c'est mon personnage de comics préféré. Parce D'accord. que c'est parce que il y a pas grand-chose qui l'arrête. C'est quand même un bon salaud. Qui se fait aucune illusion sur lui-même, mais qui finalement arrive à quand même à tracer sa route.
Et c'est du fantastique.
C'est du fantastique. Alors c'est du fantastique pur souche, donc il est magicien. On croise des démons, les anges, les archanges, enfin tout y est, tout y traîne, tout y passe. Et puis c'est une série qui va connaître quand même des marchés d'Elano, mais qui va connaître entre autres un passage assez marquant de Garth Ennis, puis de Warren Ellis, puis de Mike Carey. Donc il y a de grands scénaristes de comics britanniques qui vont passer sur cette série. Alors c'est disponible partiellement en français.
Ah oui.
On n'est pas obligé. On est chez Urban Comics. On n'est pas obligé de tout lire.
Tu leur fais beaucoup de promos.
Depuis le début.
Hein.
Bah c'est eux qui publient ce que je lis un petit peu. Donc alors il y a 2-3 volumes qui sont des histoires, on va dire simples, qui tiennent en un volume, qui sont ce qu'on appelle des graphic novels en anglais. Et surtout, il y a eu quelques runs qui ont été repris en recueil. Donc il y a un volume pour le run assez court de Warren Ellis. 2 ou 3 volumes pour celui de Garth Ennis, avec notamment tout un arc autour de la famille royale, qui, je peux vous le dire, prend bien cher. Et ils sont en train de publier maintenant le run de Brian Azzarello en 2 volumes. Et par contre, pour ceux qui lisent en anglais, comme c'est mon cas, depuis plusieurs années, Vertigo est en train de rééditer l'intégralité des 300 numéros en recueil. Je crois qu'il y a eu toute une partie qui n'avait jamais été reprise en recueil. Il y a eu un run complet de Paul Jenkins qui n'a jamais été repris. Donc là, on en est à 15 volumes maintenant, si je ne dis pas de bêtises. Et il m'en reste encore peut-être 8 à 10 volumes à faire. Alors en anglais, c'est pas forcément évident parce que c'est british. Constantine n'a pas un parler de gentleman. Il a un parler de britannique, de banlieue, avec de l'argot.
Ouais, donc ça va être compliqué.
Mais c'est ça, on sent bien
son charme.
Ah, son charme. Puis on entend bien, on entend la langue. Hein, je peux vous dire qu'on sent bien qu'on est, on sent bien l'accent.
C'est marrant parce que King Urive, comme anglais, c'est pas tout à fait ça, quoi.
Non.
Non. Ah oui, non, c'est pas.
Bref. Ok. Donc ça se trouve chez Urban ou en VO.
Chez Vertigo.
Chez Vertigo. Très bien. Bon bah merci beaucoup,
Herbie. Rien.
On va terminer cette émission, je me retourne vers François pour parler un peu de ses coups de cœur et de des choses qui lui ont plu récemment. Tu vois, Herbie, lui, il se gêne pas pour sortir ses coups de cœur. Est-ce que tu as vu des films, lu d'autres livres, en dehors de Les Faux Dominos dans lequel tu as été plongé pendant plusieurs semaines et qui t'ont plu récemment?
Alors pour les livres, moi je suis atteint du syndrome de l'écrivain qui lit pas. Donc depuis que j'écris, j'arrive plus à lire.
Ça c'est pas facile.
Je lis presque plus rien. Et surtout que la plupart de mes lectures c'est de la documentation maintenant, donc c'est un drame, mais j'arrive plus à lire de romans. Non là comme ça à brûle pour point, c'est plutôt des séries qui vont
série
venir.
Ouais.
En série, moi j'ai été scotché par Westworld récemment,
ouais.
Donc le reboot de Monde Ouest. Où j'ai eu du mal à rentrer dedans. Je n'étais pas convaincu au début et j'ai quand même regardé jusqu'au bout. Parce
c'est
que
produit
c'est...
par HBO, ça.
Ouais, ouais. Et puis il y a quand même Jonathan Nolan derrière, ce qui n'est pas rien au scénario. Et j'ai bien fait de tenir jusqu'au bout parce que le final, c'est juste magistral. C'est
d'accord. Alors,
tombé
faut
par terre.
La suite, du coup.
Maintenant, il faut attendre longtemps, c'est en 2018 la suite.
Super casting aussi.
Et après, si vraiment tu veux un coup de cœur, il faut que je remonte 1 ou 2 ans en arrière. Mais les 2 premières saisons de Penny Dreadful,
ah ouais.
C'est moi ce que j'ai vu de mieux de toute ma vie en série.
Ah oui, carrément.
Extraordinaire. Ah oui, vraiment extraordinaire.
Si vous voulez voir ce qu'aime profondément François Baranger, regardez les 2 premières saisons de Penny Dreadful et la première saison de Westworld. Westworld, je crois que lors de ton père, tu as suivi.
Et écoute, j'ai pas fait comme François. J'ai eu beaucoup de mal au début et je me suis arrêté. Mais puisque tu dis qu'il faut aller jusqu'au bout.
Ah oui, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup parce que ce qui semble être des défauts au début se révèle être vraiment des twists de scénario hyper intéressants. Et puis c'est vraiment, au début, on a le sentiment que ça va être un peu dépensif sur ce qu'est la nature humaine, comment on définit, à partir de quel moment on dit que t'es un humain ou que t'es un robot, où est-ce qu'on place le curseur, etc. Chose qui a déjà été...
dans Blade Runner.
Voilà, qui a déjà été évoquée dans Blade Runner de manière à peu près définitive. T'as l'impression qu'il a tout dit dans Blade Runner. Et ben en fait non, il arrive à aller un petit peu plus loin dans Westworld, et notamment à faire des effets de... enfin, des purs twists scénaristiques, que même quand on est un peu habitué à ça, moi j'ai pas vu venir. Donc okay. Là, bravo. Quoi.
Bah Anthony Hopkins, Ed Harris, enfin pour en citer que
aide,
quoi.
Ça aide
beaucoup. Tu as vu Jérôme Westworld?
J'ai pas vu Westworld. Par contre, je suis un gros consommateur de séries aussi. Hein. C'est
on ce en parlera.
C'est ce qui me laisse pas le temps de lire.
D'accord. Oui, bah c'est vraiment
c'est
le truc.
C'est très chronophage. C'est les le truc. Télé, hein.
Bah depuis Netflix en plus, moi je me suis abonné.
On n'en parle pas.
C'est vrai qu'il y a plein de choses à disposition. Et je vous recommande Chasseur de Trolls, écrit par Guillermo et produit par Guillermo del Toro, qui est une série d'animation que j'ai trouvé assez magique. Clémence, un petit coup de cœur. Un petit coup de cœur comme ça au débeauté.
Comme ça au débeauté. Je ne sais pas si c'est un coup de cœur, mais je retrouve en ce moment un petit peu de temps. Et j'ai maté ce week-end le premier épisode d'une série qui s'appelle Riverdale, si je ne dis pas de bêtises. Mm-hmm. Qui mélange, c'est un espèce de mélange côté un petit peu étrange à la Twin Peaks avec Gossip Girl.
D'accord.
Donc là, les personnages sont tous beaux, sont tous énervants tellement ils sont beaux.
Oui,
on dirait
qu'ils
se déplacent avec Photoshop sur la tête. et les deux premiers épisodes sont dispos sur Netflix.
Oui, c'est sur Netflix.
C'est une collaboration en fait avec une chaîne américaine dont le nom m'échappe. Mais donc ça va être diffusé au fur et à mesure et pas tout d'un coup comme Netflix le fait d'habitude.
CW.
CW. Et donc le premier épisode m'a plutôt interpellée et je suis très curieuse de voir ce que va donner la suite.
Je comprends mieux le côté Gossip Girl du coup. C'est la CW, c'est la chaîne qui fait The 100, The Vampire's Diaries, Arrow, Flash, etc. Toutes ces Supernatural, enfin voilà.
Ah Supernatural.
La série préférée de Docteur Non.
Et juste pour en pitcher quelques mots, du coup, l'histoire se passe sur un campus où un étudiant très populaire a disparu mystérieusement. Et voilà. Et je n'en dis pas plus.
Bah, on n'en sait peut-être pas plus parce que...
C'est le tout début.
C'est le début de la série. Bon, bah, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, François, d'avoir participé à cette longue interview et surtout de nous avoir parlé de l'effet domino. Alors, évidemment, on vous recommande encore de l'acheter. Achetez-le en numérique, achetez-le en grand format.
Puis, il faut acheter Dominio Mundi aussi.
Et alors, Dominio Mundi, c'est moins cher parce qu'il est en deux volumes chez Pocket.
Il est en deux volumes chez Pocket SF et je peux vous livrer un scoop ce soir, ça va être adapté en BD.
Cool. Ben voilà, on sera pas venu pour rien. Ça c'est chouette. Ouais, mais alors tu sais qui va faire l'adaptation?
C'est en égo, donc je peux pas en dire plus. D'accord. Mais normalement ça va se faire.
Est-ce que tu mettras ton
grain de sel? Il y aura beaucoup de volumes ou pas?
Mécaniquement il devrait y en avoir beaucoup, mais justement ça fait partie de la négo.
Tu vas mettre ton grain de sel?
Artistiquement oui, mais c'est pas du tout moi qui vais dessiner.
Bah non, mais tu auras quand même un droit de regard.
Bah bien sûr,
ouais,
bien sûr.
Ouais, ouais. On peut savoir l'éditeur ou c'est encore
pas
en secret? Il va falloir que tu reviennes.
Je serai une tombe.
C'est pas Bragelonne.
On fait pas de BD. On fait du comics un petit peu, mais on fait pas de BD. Bon, bah c'est chouette. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. On va se retrouver très vite la semaine prochaine pour une prochaine émission qu'on va enregistrer maintenant.
Mais là, on est en vacances la semaine prochaine. Ah oui, tu fais un jeu de mots. Oh là là, je suis fatigué moi.
Ah là, tu es très fatigué. Merci beaucoup, Lord Ton Père. Merci, Herbie. Pour cette rubrique. Merci beaucoup, Clémence, pour cette première rubrique. J'avoue que j'ai un peu du mal à caler tout ça, mais ça va venir,
ça va
petit
venir.
À petit, évidemment. Merci beaucoup, François, encore une fois, d'être venu. On
merci
admire énormément ton travail, donc j'étais très, très heureux de te recevoir. Et puis, merci à Jérôme d'être là avec nous ce soir. Et puis, on va te retrouver très vite dans cette émission, cette prochaine émission.
Avec plaisir.
Lors de ton père, un
podcast sans accro, Mister
Lee. C'est ça, et puis voilà, la semaine prochaine.
Ouais.
On vous embrasse.